France Inter, 18h18.
This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dacha. France Inter. Le 18-20.
Un jour dans le monde, un jour tragique dans le monde. Attentat à Manchester. Hier soir, un kamikaze se fait exploser à la sortie d'un concert auquel assistaient des familles, des ados, des enfants. 22 morts, 59 blessés. L'organisation terroriste État islamique a revendiqué l'attentat, visiblement commis par un homme seul, transportant une bombe dans son sac à dos. Et les Britanniques sont à leur tour frappés par un attentat de grande ampleur après la France qui en a connu tant, la Belgique et l'Allemagne. Jusqu'à 19h. Invité Réaction dans le Monde, revue de presse. Soyez les bienvenus.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
Se succéderont au micro d'Inter Arnaud Danjean, le député européen, Les Républicains, membre de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense au Parlement européen, Denis McShane, l'ancien ministre britannique des Affaires européennes, Dominique Grieve, député britannique conservateur. Mais je salue pour l'instant Jonathan Fenby. Bonsoir Jonathan.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, essayiste, vous avez consacré votre dernier livre à la France dans son époque moderne et contemporaine. Jonathan, dites-nous, c'est le premier attentat après celui du Parlement britannique il y a deux mois. Nous étions en ligne avec vous quand ces faits s'étaient déroulés. Les Britanniques savaient, je ne dirais pas attendaient. Vous êtes toujours là, Jonathan ?
Oui,
les Britanniques savaient, disais-je. J'imagine qu'ils étaient visés et que la température pourrait monter.
Oui, il y avait un haut niveau d'alerte depuis pas mal de temps en Angleterre maintenant, avec la police qui disait qu'il y avait toujours un danger d'un attentat. Il y a eu pas mal des arrestations des suspects ce dernier temps, mais cette affreuse attaque montre encore une fois comment c'est difficile de contrôler le terrorisme.
Vous le disiez, Jonathan Fenby, des attentats ont été déjoués ces derniers temps, ou à tout le moins des suspects arrêtés.
Oui, des suspects arrêtés, on ne sait jamais jusqu'à quel point ils sont allés. Mais évidemment, maintenant, la police essaie de voir si celui qui a commis l'attentat hier soir à Manchester agissait seul ou est-ce qu'il faisait partie d'un réseau. Et il semble qu'il a été identifié. Mais on ne sait pas exactement qui c'était et surtout comment il a agi.
Quelle est l'atmosphère, Jonathan Fenby, aujourd'hui chez vous? Quelle est la couverture que fait la presse écrite, les sites internet, mais aussi les télévisions de cette horreur d'hier soir?
Oui, mais évidemment, la couverture, ça domine les médias en Angleterre. C'est un grand choc, un très grand choc. Mais les réactions du Premier ministre étaient assez fortes, il faut dire. Mais je crois, en même temps, les gens, il y avait quelqu'un, un présentateur à la BBC, qui a dit, et certains gens étaient choqués par ça, que malheureusement, il faut vivre maintenant avec cette menace terroriste. Il faut prendre ça en compte, mais en même temps, pas arrêter la vie quotidienne.
Pourquoi les gens ont été choqués par une phrase qui ne choquerait pas ici en France?
Ça m'a pas choqué moi, mais il semble, d'après les réactions sur l'internet, il faut pas dire ça, que c'est une façon d'accepter le terrorisme. Moi, je trouve que c'est assez bête de nier cette fait que malheureusement fait partie maintenant de notre existence quotidienne.
L'appareil policier britannique, Jonathan Fenby, est de qualité aujourd'hui? On a vu la France multiplier les mesures, les dispositifs légaux, mais aussi les plans d'armement ou de réarmement de la police, de recrutement sur une très grande échelle pour l'appareil de renseignement. Qu'en est-il chez vous?
Oui, il n'y a pas d'état d'urgence ici et personne n'en parle de ça en Angleterre. Et c'était intéressant, Theresa May, le Premier ministre, dans son déclaration ce matin, avait mis l'accent sur le fait qu'elle était sûre que la police avait assez de force, de pouvoir, de ressources comme ça pour combattre cette menace. Donc je crois pas, en Angleterre, on a vu en France quelques questions sur les services de sécurité, surtout après les attentats à Paris. J'ai pas entendu ça ici pour le moment. Les gens en général ont confiance, je crois, dans les forces de police.
Mmh. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'état d'urgence chez vous, Jonathan Fenby, ça n'existe pas dans les textes ou il n'est pas mis en œuvre?
Ça n'existe pas comme ça. On pense que, en général, je suis pas juriste là pour savoir exactement quel pouvoir ont les autorités, la police, mais on a l'impression qu'ils ont assez de pouvoir pour ça. Et comme je dis, il y a eu toute une série d'arrestations des suspects ce dernier temps qui montrent que la police est toujours assez active. Évidemment, avec des cas comme ça, ce qu'on sait pas, c'est quels attentats ont été déjoués à l'avance. Évidemment, la police sont assez avares avec les informations.
Mmh. Et quelles informations avez-vous concernant la coopération avec les pays européens qui sont tous, peu ou prou, victimes ou en tout cas menacés par le terrorisme? La coopération également avec les Américains. Est-ce que ça fonctionne bien d'après ce qu'on dit et ce qu'on peut lire chez vous?
D'après ce qu'on dit, et vous aurez peut-être des gens plus spécialisés que moi pour parler de ça, mais c'est insuffisant comme ça. Il faut, au niveau européen, de renforcer la coopération, l'échange d'informations surtout, et évidemment, il y a toute la question du Brexit là-dedans. Si l'Angleterre part, est-ce que de l'Union européenne, ou quand l'Angleterre part de l'Union européenne, est-ce qu'il y aura toujours des liens entre les services de police, les services de sécurité, les services de contre-espionnage, etc., pour essayer de surmonter cette menace-là. Et ça a été soulevé à des moments dans des discussions de Brexit, la défense et aussi la sécurité intérieure.
Il y avait une véritable inquiétude sur ce point-là, parce qu'on l'a vu effectivement débattu sur les formes, le périmètre du Brexit. On a vu cette inquiétude sur la coopération des différents services secrets. Est-ce que c'est une peur formelle ou est-ce qu'on en débat véritablement chez vous?
On débat de ça et c'est le problème, c'est que ça peut être un des sujets de discussion, de débat dans les négociations qui risquent d'être assez dures et ce sera très dommage que ce point très sensible soit une litige entre la Grande-Bretagne et les 27 autres pays.
Mmh. Merci beaucoup Jonathan Fenby d'être intervenu sur France Inter. Je rappelle que vous êtes journaliste, essayiste britannique. Votre dernier livre est consacré à la France, histoire moderne et contemporaine, la France dont vous parlez parfaitement la langue, on a pu l'entendre. Et bonsoir Michael Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Avec vous, on va d'abord s'arrêter, Michael, sur les réactions internationales après cet attentat de Manchester. Réactions évidemment très nombreuses partout dans le monde.
Oui, je remonte le fil, Nicolas. A commencé par l'Australie, en raison bien sûr du décalage horaire. Le Parlement australien a été le premier à réagir à l'attaque. Tous les députés ont observé une minute de silence à l'ouverture de la session. Il était 9h heure locale ce matin, 1h du matin à Paris, où l'on commençait à peine à prendre la dimension du carnage. Scène identique quelques minutes plus tard à Tokyo et Séoul. Premier communiqué officiel, dénonçant presque tous dans les mêmes termes l'horreur de cet attentat. Puis viennent les réactions européennes, celle d'Emmanuel Macron, 8h10 ce matin. Le président français qui fait part de son effroi, de sa consternation, adressant au peuple britannique toute sa compassion, la sollicitude de la France, qui se tient aux côtés du peuple britannique dans le deuil, et d'ajouter que la France poursuivra évidemment avec le gouvernement et les forces britanniques le combat contre le terrorisme. Même tonalité exactement du côté d'Angela Merkel, qui a dit sa tristesse et son horreur, la chancelière assurant que cette attaque ne ferait que renforcer la détermination de l'Allemagne à combattre les méprisables terroristes, en partenariat avec ses partenaires britanniques et européens. Tout faire contre ceux, a-t-elle dit, qui commettent des actes aussi inhumains. 3 minutes plus tard, précisément, communiqué du Kremlin, Vladimir Poutine exprime ses sincères condoléances à la première ministre britannique, Theresa May, après cet attentat qu'il qualifie de cynique et inhumain. Le président russe proposant aussitôt de développer la lutte antiterroriste avec Londres au niveau bilatéral, mais aussi, précise-t-il, dans le cadre des efforts internationaux. 9h05, heure de Paris et Bruxelles, à la demande du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, tous les drapeaux européens de tous les bâtiments officiels bruxellois et strasbourgeois sont mis en berne. en hommage aux victimes. 9h55, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou condamne avec force ce terrible attentat terroriste, appelant à l'union de tous. Le terrorisme est une menace mondiale et les pays civilisés doivent agir ensemble pour en venir à bout où qu'ils sévissent, dit-il. 10h, le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, annonce le renfort immédiat des effectifs policiers dans les rues de la capitale britannique. 10h05, depuis Bethléem, en Cisjordanie, Donald Trump condamne à son tour l'attentat, en des termes qui, une fois de plus, peuvent surprendre. Tellement de jeunes gens magnifiques, vivants et aimant la vie, assassinés par des losers malfaisants. Je ne les appellerai pas des monstres, car ils aimeraient trop ce mot, explique le président américain. Suivi, juste aussitôt après, aux États-Unis, d'un communiqué du gouverneur de New York, Andrew Cuomo, qui annonce le déploiement de patrouilles supplémentaires à des endroits particulièrement sensibles, le métro, les aéroports, par mesure de précaution uniquement. Car, dit-il, il n'y a pas à cet instant d'infos indiquant une menace spécifique contre des événements musicaux à New York ou globalement aux États-Unis, réaffirmant lui aussi son entière solidarité avec le peuple britannique et avec tous ceux qui, dans le monde, luttent contre les forces de la haine et de la terreur. Fin de citation.
Arnaud Dorjan, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être au micro de France Inter, 18h29. Vous êtes député européen, je le redis, membre de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense au Parlement européen. Les forces de l'ordre déjouent sans cesse des attentats, démantèlent des filières. Ça, on le voit, on le sait en France. Mais parfois, un terroriste échappe aux mailles du filet. Est-ce qu'il y a des marges de progression, Arnaud Dorjan, dans les dispositifs de sécurité tels qu'ils existent aujourd'hui?
Il y en a toujours. On peut toujours faire mieux, parce que la preuve, on n'est pas à l'abri de ce genre d'événements. L'infaillibilité totale n'existe pas, mais on peut toujours évidemment améliorer les choses. On peut toujours donner un peu plus de moyens. Comparativement, on parle beaucoup aujourd'hui des Britanniques, comparativement, les services français sont encore en deçà des Britanniques en termes de budget et de ressources humaines. Donc là, on a des efforts quantitatifs encore à faire. On peut faire des efforts qualitatifs. Vous évoquiez tout à l'heure, sans préciser, mais les recrutements auxquels on doit procéder pour diversifier les profils de nos membres des services de renseignement. On a encore des progrès à faire en France en matière de décloisonnement entre les différentes structures policières, renseignements, justice. On est quand même très prisonnier en France des organigrammes administratifs, on adore ça, et on n'est pas arrivé encore à un degré de fluidité que d'autres pays peuvent avoir. Mais même avec tous ces ajustements, on est plus dans l'ordre de l'ajustement que de la grande révolution structurelle, même avec tous ces ajustements, on n'aura pas un risque zéro. Et d'ailleurs, malheureusement, ce qui vient de se produire à Manchester en est l'illustration parfaite, puisque moi j'estime, je ne suis pas le seul, très modestement, que le modèle britannique est sans doute un des plus performants en Europe et au monde en matière d'intégration des services, de partage de l'information, de fluidité opérationnelle entre la police et les services de renseignement. Et malgré cela, malgré ce modèle qui est un modèle éprouvé, eh bien, on a ce genre de drame.
Quand vous dites un modèle, Arnaud Dorjan, vous pensez à quoi exactement? Qu'est-ce qui fonctionne chez eux en temps normal, évidemment, qui pourrait mieux fonctionner chez nous?
Écoutez, chacun a sa culture, chacun a son histoire, et c'est très difficile d'imposer des modèles ou de plaquer des modèles sur chacun des pays. En tout état de cause, ce qui se passe chez les Britanniques, c'est que depuis 2001, les attentats aux États-Unis, et surtout depuis 2005 à Londres, ils ont mis en place non pas une coordination, non pas une coopération entre leurs services, mais une véritable intégration opérationnel. Et ça, c'est très compliqué à faire, parce qu'il y a des modes de fonctionnement différents, des procédures différentes, des administrations différentes, mais ils ont réussi, sur le plan opérationnel, à mettre en place des task forces très intégrés, qui sont sous le leadership du service de renseignement intérieur, communément appelé le MI5, qui est la lead agency en la matière, et puis qui agrège le MI6, le renseignement extérieur, le JCHQ, le renseignement technique, et puis les special branches de la police, pour, au niveau local et au niveau national, intégrer véritablement les équipes de travail. Ça commence à se faire, ça commence à se développer, ça commence à décloisonner en France, mais on n'a pas atteint ce degré d'intégration. Mais encore une fois, malheureusement, on voit que c'est pas non plus une formule magique.
Arnaud Dorjan, vous l'avez dit, il y a encore des marges pour améliorer le dispositif policier et de renseignement en France. Le président de la République, Emmanuel Macron, a indiqué en milieu de journée qu'il voulait renforcer la coopération antiterroriste européenne. Qu'en est-il justement de cette échelle-là, l'Europe? Est-ce qu'il y a des manques de ce côté-là?
Écoutez, moi je suis très sévère avec ce genre de formule que j'appelle pour ma part des poncifs, avec tout le respect dû au président de la République, mais franchement, on est là dans l'ordre du poncif, qui revient après chaque attentat. Et on a l'impression que nos responsables politiques ne savent pas de quoi ils parlent quand ils parlent de coopération antiterroriste européenne. De quoi s'agit-il ? S'il s'agit de la coopération entre les services de renseignement nationaux, parce que c'est les services de renseignement nationaux qui sont responsables, ça fonctionne. Les échanges, la coordination, elle est intensive. Il y a des gens qui sont dédiés à ça 24 heures sur 24 dans chacun des services européens. Donc ces gens travaillent ensemble, ils travaillent de façon efficace. Et de ce point de vue-là, ils vous diront tous que renforcer encore la coopération, ils ne savent pas à quoi ça correspond. Mmh. Si c'est pour se lancer dans des mécanos institutionnels pour faire passer cette coopération à tout prix par la case Union européenne, moi je suis très européen, j'ai foi dans le projet européen, mais pour le coup, sur ces projets-là, je suis extrêmement réservé. Je ne suis pas certain de la plus-value d'une nouvelle case qu'on ajouterait aux cases nationales à Bruxelles pour la coopération en matière de renseignement antiterroriste. On a une marge de progression dans l'information, dans l'échange d'informations policières. Et de ce point de vue-là, on a effectivement Europe qui joue un rôle tout à fait utile pour fluidifier et intensifier les échanges policiers et judiciaires avec Eurojust. Mais pour ce qui est du renseignement, attention, ce genre de formule toute faite sur l'intensification de la coopération européenne, encore une fois, tournons-nous vers les professionnels, demandons-leur de quoi ils ont vraiment besoin. Je ne pense pas qu'ils mettent ça en tête de leur priorité, parce que les numéros de téléphone de leurs homologues anglais, allemands, italiens ou autres, ils les ont, et c'est une coopération tout à fait intensive.
Alors, attention, dites-vous, Arnaud Dangean, essayez de ne pas trop bouger, vous êtes avec nous en ligne, j'imagine, depuis un téléphone portable ou un téléphone mobile. Nous avons quelques petites difficultés de liaison dans notre conversation. Pourquoi ce cliché perdure-t-il ? Vous avez dit améliorer la coopération antiterroriste en Europe, c'est un cliché qui est ressorti à chaque attentat, et Dieu sait qu'il y en a eu des attentats ces derniers mois, ces dernières années. Pourquoi ce cliché perdure ? S'il y a une organisation non institutionnelle mais redoutablement efficace du dialogue entre les services ?
Bien parce que, justement, les services, par définition, travaillent sous les écrans radars médiatiques et même, j'allais dire, de la puissance publique au sens large, qui n'est pas forcément très avisée de la façon dont ça se passe. Et je pense qu'en plus, politiquement, il y a un élément de langage très pratique qui consiste à jeter l'Europe, dans ce domaine comme dans d'autres, en pâture à l'opinion publique en disant « Bon, nous, on fait tout ce qu'on peut à notre niveau, mais il faut régler le problème à l'échelle européenne. » Sous-entendu, c'est au niveau européen que ça marche pas ou qu'il y a des lacunes. Sauf qu'il y a deux limites à cela. La première, c'est que, comme je vous l'ai dit, d'abord, les coopérations sont déjà intensives. Et même si elles ne sont pas institutionnalisées à Bruxelles, ça marche quand même. Et deuxièmement, il faut bien savoir que les prérogatives de l'Union européenne, des institutions européennes, en matière de sécurité intérieure et d'antiterrorisme, sont extrêmement limitées par les États membres eux-mêmes, qui ont toujours revendiqué la primeur en matière d'organisation de la sécurité sur leur propre territoire. Et donc, il y a un peu une hypocrisie à vouloir rejeter en permanence la responsabilité du côté de Bruxelles, même quand c'est vertueux et c'est pour faire mieux, alors que pendant des années, on s'est évertué à tout garder comme prérogative au niveau strictement national.
Notre confrère Jonathan Fenby nous disait à l'instant que la perspective du Brexit suscitait un débat chez les Britanniques, avec la peur que le travail des services de renseignement à échelle européenne soit perturbé par la sortie du pays de l'UE. Qu'en pensez-vous ?
Je ne le pense pas. Je ne le pense pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que le sujet a été maladroitement évoqué au détour d'une conversation par Madame May, mais elle a vite été remise en place. Il y avait une espèce de tentation du chantage. Si vous nous embêtez trop sur les conditions dures du Brexit en matière commerciale et économique, eh bien, on vous fera payer ça sur le plan sécuritaire. En gros, c'est ce qu'elle le laissait entendre. Très vite, les réactions britanniques, y compris dans son propre camp, ont été très sévères. Donc, je ne pense pas qu'on soit dans cette logique-là. Et deuxièmement, c'est-à-dire, quel que soit ce qui se passe au niveau Brexit, et quelles que soient les relations diplomatiques officielles, on sait que les coopérations antiterroristes survivent généralement à ce genre de refroidissement. J'en veux pour exemple la guerre en Irak en 2003. Vous vous souvenez de l'intensité des différents franco-américains. Je peux vous dire que la coopération entre services français et américains, elle a quasiment jamais été aussi bonne qu'à ce moment-là sur l'antiterrorisme proprement dit. Donc je ne crois pas qu'on soit tant affecté que ça par le Brexit. Je crois que dans chacun des camps de négociation, tout le monde a bien conscience des responsabilités qui incombent aux uns et aux autres en matière de lutte antiterroriste. La Grande-Bretagne est un fournisseur extrêmement important de ressources humaines et en information aux structures européennes en matière d'antiterrorisme, notamment à Europol. Elle ne va pas se retirer du jour au lendemain, tout le monde en a bien conscience. Je crois qu'il y a un souci de part et d'autre de sanctuariser, si vous voulez, les sujets qui ont trait à la sécurité et à la défense et de ne pas partir dans des surenchères irresponsables.
Une dernière question, Arnaud Danjean. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a aujourd'hui deux profils et que paradoxalement, la grande crainte qu'il y avait sur ceux que David Thompson appelle les revenants, c'est-à-dire ceux qui ont fait la guerre en Syrie et qui reviennent en France, paradoxalement, les revenants sont peut-être plus faciles à traquer que les radicalisés express ou non qui vivent dans les pays où ils commettent des attentats.
Oui, même s'il y a des porosités entre ces réseaux, puisque son parti sont eux-mêmes issus de réseaux, et on sait à peu près toujours les mêmes dans ce genre de filière. Donc il y a quand même une grande porosité entre ces deux milieux, donc je ne ferai pas une césure tout à fait franche. Je vous avoue que pour ma part, j'ai un certain nombre d'inquiétudes liées aussi à d'autres réseaux terroristes, parce que l'atrophie, la réduction territoriale que subit actuellement l'État islamique en Syrie et en Irak, va évidemment amener des mutations géographiques qui vont partir ailleurs, certains vont revenir. C'est une vraie menace à court terme, j'allais dire. À plus long terme, moi, je suis frappé par le degré de résistance et d'existence de vieux réseaux, d'Al-Qaïda en particulier, qu'on a tendance à oublier ou à mésestimer, mais qui, eux, recherchent toujours l'attentat spectaculaire, sont toujours en reconstitution de réseau, et je crois qu'il ne faut absolument pas baisser la garde ou se focaliser avec une espèce d'effet de mode sur l'État islamique, qui est une vraie menace extrêmement intense à court terme, mais qui va muter. J'allais dire immanquablement, Daesh va muter parce qu'ils sont en difficulté sur leur terrain, parce que certains vont partir, vont se redéployer ailleurs, vont fusionner avec d'autres groupes, et donc il faut rester extrêmement vigilant et d'ores et déjà se projeter, anticiper d'autres types de menaces.
Merci beaucoup Arnaud Danjean, député européen Les Républicains, membre de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense au Parlement européen. Merci beaucoup de vous être exprimé sur France Inter. Un coup d'œil à présent, 18h40, Michael, aux derniers articles de la presse britannique.
Oui, dans leur version évidemment numérique, même si tous les grands quotidiens du Royaume-Uni ont tous sorti, vous en doutez, plusieurs éditions papier ce matin. Et ce soir, c'est sans doute l'édito de notre consoeur Eve Barlow du Daily Telegraph qui retient l'attention. Édito en forme de lettre, très émouvante. Lettre directement adressée aux innombrables adolescents et adolescentes présents hier soir à ce concert. Je vous en livre telles quelles les premières lignes. Vous aviez acheté les billets des mois à l'avance, ce n'était pas rien. Quelle chance de les avoir décrochés. Depuis, vous faisiez le compte à rebours des milliers d'heures qu'il allait falloir attendre avant de voir enfin votre idole en chair et en os. Vous avez choisi votre plus belle tenue, puis vous avez changé d'avis. Et vos cheveux, comment les coiffer? Vous avez réfléchi aux moindres détails de cette grande soirée? Avec quels amis y aller? Le contenu de votre sac? Comment rentrer ensuite? Ce premier concert vous a semblé durer une semaine entière. Toutes ces sensations nouvelles, inédites. Le son était plus fort que vous ne vous y attendiez. Ça vous a remué jusque dans l'estomac. Vous ne saviez pas que c'était possible un truc pareil. Votre premier concert, quel kiff! Encore mieux que les meilleures vacances du siècle. À peine sorti, vous vouliez aller en voir un autre et le plus vite possible. Pour beaucoup, le tout premier concert, des gamins, des ados, des jeunes filles, comme s'il n'y avait pas déjà en ce monde suffisamment de choses pour faire peur aux adolescentes. Voilà qu'elles doivent maintenant redouter aussi les terroristes. Et c'est aussi aux plus jeunes victimes que pense le Times, qui reprend presque mot pour mot le titre d'un article italien paru dès ce matin. En visant des enfants, ils ont touché notre point faible. Et cette question, sommes-nous désormais condamnés à vivre dans l'angoisse? Eh bien, surtout pas, répond ce soir le site du Irish Times, qui rappelle que Manchester, ville de la pluie, ville du curry, capitale de la musique, Manchester a déjà été victime du terrorisme. Et face à cette tragédie, Manchester, comme elle l'a fait après les attentats de l'IRA en 1996, relèvera la tête avec plus de détermination encore. Et d'expliquer, argument culturel à l'appui, Manchester est une ville unie envers et contre tout, unie à son patrimoine musical et à toutes les musiques du monde. Elle ne renoncera donc pas, à cause de ce drame, à exalter dans la fête son histoire et son avenir. Et on en reparle, Nicolas, de ce lien si particulier entre Manchester et la musique dans quelques minutes.
Et je salue Denis McShane. Bonsoir, Denis.
Bonsoir, bonsoir, Nicolas.
Ancien ministre britannique des Affaires européennes, avec nous également Dominique Grieve. Bonsoir, monsieur le député.
Bonsoir.
Député britannique conservateur. Une question pour tous les deux, après le moment du deuil, de l'horreur. Est-ce que vous pensez que cet attentat va susciter un débat sur le rôle et l'efficacité des forces de l'ordre, des forces de renseignement, ou cet aspect vous semble faire partie du consensus, Denis McShane?
Moi, je crois qu'il n'y a absolument pas de division politique. On sait si quelqu'un est prêt à aller toute seule dans le foyer avec une veste de bombe et se suicider. Il y a très peu qui peut le stopper. On a la tristesse avec la France, à Bataclan, Charlie Hebdo, le promenade des Anglais. On voit un petit de 8 ans, c'est ça qui est le plus touchant peut-être. On connaît maintenant que c'est quelqu'un né en Angleterre, à Manchester, de la famille libyenne, Salman Abidi. Il faut faire tous les renseignements sur et les pistes. Mais non, comme à Stockholm, comme le camion à la foire de Noël à Berlin, à Petersburg, malheureusement, je ne pense pas on peut stopper quelqu'un qui est prêt surtout à se donner la mort.
Et vous, Dominique Grieve, qu'en pensez-vous? Pas de remise en cause de l'efficacité de la police et du renseignement?
Non, je ne le pense pas. Nous avons des services de renseignement et une police qui est très efficace, qui a déjoué beaucoup de complots dans les dernières années, des complots terroristes. Ah, et il faut comprendre qu'on ne peut pas garantir la sécurité à 100%. C'est impossible. Nous vivons dans un monde où malheureusement il y a des risques de terrorisme et l'empêcher complètement est impossible. Donc je suis d'accord avec Denis McShane. Je ne vois pas l'intérêt que les politiques auraient d'essayer d'en faire une question politique, parce que c'est une question où il y a entre les différents partis, une unité de vue. Nous dépensons plus maintenant sur nos services de sécurité que nous faisions il y a 4 ou 5 ans. C'est une augmentation assez nette dans un milieu économique qui est assez difficile. Et je n'ai jamais ressenti qu'il y a des plaintes au Parlement que nous ne faisons pas assez.
Dominique Grieve, quand les premiers attentats ont eu lieu en France, le premier d'entre eux, notamment celui de Charlie Hebdo, je ne remonte même pas à la tuerie de Toulouse, mais en tout cas celui de Charlie Hebdo, personne ne pouvait imaginer qu'il y en aurait autant après en France. Et il a fallu se résigner à cette idée que nous allions vivre un certain nombre de temps sous la menace terroriste. Est-ce que cette prise de conscience-là est aujourd'hui la vôtre?
Certainement, c'est la mienne. Mais peut-être la différence, c'est que je crois qu'au Royaume-Uni, on était peut-être mieux adapté que vous ne l'étiez à cette possibilité. Rappelez-vous que nous avons eu le terrorisme de l'Irlande du Nord pendant des années, et un intervalle très assez bref entre la fin de ce terrorisme et l'arrivée d'un terrorisme venant des circonstances de l'islam et du Moyen-Orient et de la crise qui a lieu. Alors, je crois que nous y sommes habitués. Et bien sûr, le public, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas émus à ce sujet et ils ne vont pas en parler.
Mais vous n'aviez pas oublié, vous n'aviez pas oublié Dominique Grieve depuis 2005?
Non, pas du tout. Absolument pas. Depuis 2005, nous passons notre temps à réfléchir que nous avons eu beaucoup de chance. Et bien sûr, avec l'attaque sur le Parlement il y a 2 mois, et les autres attaques, et les complots qui ont été déjoués. Donc, avec cette question, non, pas du tout. On n'a rien oublié, à mon avis. Et certainement pas la police ou les services de sécurité, et même pas le public.
Denis McShane, il va falloir s'y faire et vivre à nouveau sous la menace terroriste qui, Dominique Grieve le disait évidemment, n'est pas une nouveauté chez vous.
Malheureusement pas, il y a 3600 victimes du terrorisme irlandais, nationalistes, extrémistes, Et comme a dit monsieur le député européen il y a un moment, il y avait un camion bourré en 1996, bourré avec 1500 kg d'explosifs, un grand centre commercial au centre de Manchester. La bombe a sauté, il n'y a personne qui a été tué, mais nous voilà, Dominique et moi, nous, depuis notre enfance à peu près, on est habitué à les gens qui pensent, moi j'ai une idéologie, j'ai une croyance dans l'Irlande unifiée, dans les califats, qui me justifie d'aller faire des atrocités. Donc il faut une lutte idéologique beaucoup plus ferme, mais aussi une intervention politique. Parce qu'on a déjoué le problème en Irlande, politiquement, et j'hésite, mais je vais bien poser la question, est-ce que la politique qu'on mène dans Libye, donc le bombeur, le terroriste, sa famille est d'origine libyenne, en Syrie et en Irak, est le bon, est le bon.
Merci à tous les deux, Denis McShane, Dominique Grieve, nos pensées amicales et chaleureuses à tous les deux. Denis McShane, ancien ministre britannique des Affaires européennes, Dominique Grieve, député britannique conservateur. 18h49, avant de retrouver Anthony Bélanger pour son édito, Michael, chose promise, chose due, Manchester en musique.
Mais oui, impossible, vous vous en doutez d'être exhaustif. Tant la scène musicale mancunienne est riche et variée depuis près d'un demi-siècle maintenant. Alors, petit florilège, forcément arbitraire, florilège d'artistes nés ou grandis à Manchester ou qui ont percé un jour dans cette troisième ville d'Angleterre. Premier extrait, nous sommes en 1966, Nicolas. Un certain Herman's Hermits chante qu'il n'y a plus de lait aujourd'hui.
No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. Today it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace that had been behind the door where my love reigned a scream? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn idle today.
Et de No Milk Today à Love Will Tear Us Apart, 14 ans plus tard, on est en 1980 avec Joy Division. Joy Division et Manchester encore, 1984, entrée fracassante dans les charts britanniques et mondiaux, The Smiths, Suffer Little Children.
Leslie Ann and your pretty white beads. Oh John, you'll never be a man and you'll never see your home again. Oh Manchester, so much to answer for. Would see those alluring lights. Tonight will be your very last night. A woman said, I know my son is dead. I'll never rest my hands on his sacred head. Hindley wakes and Hindley stays. Gone. I have
Et Manchester, toujours 5 ans plus tard, on est en 1989, nouveau choc musical avec The Stones Roses, I Wanna Be Adored. Enfin, Nicolas, et parce qu'il serait beaucoup trop facile de finir par Oasis, eh bien, les dernières notes à The Chemical Brothers, 1999, Hey Boy, Hey Girl. Chemical Brothers à Manchester.
Une playlist parmi toutes les playlists possibles, quasiment infinie de Manchester. Merci beaucoup, Michael Thébault. L'édito.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
Anthony Bélanger, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On poursuit avec vous, Anthony, la réflexion sur l'effet que pourrait avoir cet attentat alors que la Grande-Bretagne est en campagne électorale.
En pleine campagne législative, rappelons que le système électoral britannique, vous savez, qui est dit uninominal, n'a qu'un tour de scrutin qui est prévu le 8 juin prochain. C'est donc quitte ou double. La réponse à la question de savoir donc si cet acte terroriste est lié à l'élection est donc évidente. Oui, sans équivoque. Il suffit de se souvenir qu'un attentat a été commis en France sur les Champs-Élysées le 20 avril, juste avant le premier tour de la présidentielle, pour s'en convaincre. Ce n'est même pas la première fois qu'un attentat islamiste tente de perturber une élection cruciale. Je rappelle que l'attentat d'Atocha à Madrid, le 11 mars 2004, qui avait fait 191 victimes et plus de 1800 blessés, avait eu lieu 3 jours avant un scrutin législatif. L'Espagne est en plus une sorte de cas d'école. Le gouvernement de l'époque avait très mal géré les heures suivant cette horreur, accusant les terroristes basques de l'ETA, s'accrochant à cette explication et donnant donc l'impression au pays de mentir.
Et c'est l'opposition socialiste, Anthony, du coup, qui l'avait emporté.
Oui, et qui a immédiatement retiré les troupes espagnoles d'Irak, souvenez-vous. Donc un attentat terroriste, surtout grave, peut bel et bien avoir des conséquences sur un processus électoral. La Grande-Bretagne est-elle donc aujourd'hui dans la même situation? Eh bien, pour répondre, il faut se plonger dans la campagne électorale qui oppose la première ministre conservatrice Theresa May et le travailliste très à gauche, Jeremy Corbyn. Les libéraux démocrates, vous savez qui sont les centristes de l'affaire, faisant de la figuration dans ce film très britannique. Jusqu'à la semaine dernière, Theresa May disposait d'une avance énorme de 15 à 20 points dans les sondages. Personne n'imaginait qu'un socialiste pur sucre comme Corbyn, qui plus est contesté dans son propre parti, puisse rattraper Madame Brexit is Brexit. Mais ça, c'était avant que Theresa May n'enclenche la machine à perdre. En une semaine, elle est parvenue à se mettre à dos et les personnes âgées et les familles les plus fragiles, un véritable exploit électoral. Alors comment elle a fait? Eh bien en supprimant la gratuité des cantines scolaires pour les plus modestes, d'une part, et en libéralisant totalement le soin aux personnes âgées dépendantes, d'autre part. Cette semaine, son avance a fondu à 9 petits points. Pire, elle a gagné dans cette séquence absolument désastreuse le surnom de Madame Girouette, Mrs. U-turn, parce qu'elle a donné l'impression de paniquer et qu'elle est revenue sur ses mesures particulièrement impopulaires.
Sauf que là, on bascule des problèmes sociaux aux problèmes sécuritaires.
C'est vrai qu'un débat qui porte sur la sécurité et sur le terrorisme favorise inévitablement le parti conservateur pour des raisons évidentes de positionnement droite-gauche, mais aussi pour des raisons très britanniques. Le parti conservateur était dans les années 70, 80, voire 90, la bête noire des républicains irlandais de l'IRA. C'est un premier ministre conservateur, John Major, qui en juin 96 a dû affronter le dernier attentat qui a eu lieu à Manchester. Autrement dit, pour beaucoup de Britanniques, le parti conservateur est intimement lié à la lutte contre le terrorisme. Et puis, il y a une raison très circonstancielle qui affaiblit beaucoup Jeremy Corbyn sur ce sujet très particulier pilier hein, de la réponse au terrorisme. Pas plus tard qu'il y a deux jours, Jeremy Corbyn, dans un entretien télévisé, a refusé de condamner l'IRA. Il a certes condamné tous les poseurs de bombes, hein, mais pas l'IRA. Or, la journaliste lui a posé la question 5 fois, et 5 fois, il lui a refusé cette condamnation. Ces images seraient anecdotiques dans d'autres circonstances. Après tout, l'IRA a rendu les armes et la paix a été signée en Irlande du Nord. Mais à la lumière de l'attentat d'hier soir, cette séquence est ravageuse et pourrait à elle seule faire chuter Jeremy Corbyn.
Anthony Bélanger, merci. 19h20, le téléphone sonne ce soir sur la réforme du marché du travail annoncée pendant la campagne présidentielle par Emmanuel Macron, qui recevait, devenu président, syndicats et patronat aujourd'hui à l'Élysée. Le calendrier et la méthode sont connus, aller très vite et réformer par ordonnance. Alors vos questions au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et via Twitter avec le mot-clé Telson. Le journal, Sébastien Pau, à suivre.